Dès demain s'ouvrent les 12e rencontres Giono. En attendant, nous partons pour la Camargue.
Les rencontres Giono 2017 ont pour thème les animaux, les hommes, dans l'œuvre de l'auteur de Colline. Du 2 au 6 août, des lectures, conférences, spectacles et projections vont célébrer la faune sauvage et domestique. Les animaux sont très présents dans son œuvre et nous éclairent sur la condition humaine. Vendredi 4 août, Catherine Soulard lira un texte hallucinant que Giono a écrit en préface d'un livre de photographie sur la Camargue, Kantz Sylvester, alors débutant, lui a demandé d'écrire. Ce premier ouvrage du photographe sera suivi d'une cinquantaine d'autres, composant une carrière exceptionnelle où le coup de pouce de Giono fut décisif. Nous évoquons cette rencontre dans le numéro 48 de Jean de Manosque, émission consacrée à Giono, qui a eu lieu le 7 juillet dernier, et elle est disponible sur notre site internet. Nous allons donc écouter cette préface étonnante. En fait, c'est un texte plein de lyrisme et d'érudition que Giono a écrit en 1960. Vous pouvez voir un diaporama des photos de Sylvester et entendre cette lecture actuellement à la médiathèque d'Herbès dans le cadre de la ménagerie énigmatique de Jean Giono, une superbe exposition. Je vous propose de partir en Camargue et d'entrer dans l'univers de Jean Giono, guidé par la voix de Catherine Soulard.
Souvent, dans ces étendues de bronze couvertes de roseaux, on entend clapoter la marche de quelque animal invisible. On écoute, des noms viennent à l'esprit. Renard, blaireau, sanglier, aucun ne satisfait. Cheval, bœuf, minotaure. Le bruit est à la fois pesant et léger. Est-ce le lion ailé des murailles assyriennes? On regarde, le ciel a blanchi. Le soleil ne verse plus qu'une lumière grise. Les joncs du marécage sont comme charrués par une forme antédiluvienne. Le bruit de cette approche emplit toute l'étendue. Cette bête est tellement énorme et innommable que le jour en est malade, que le calendrier se recroqueville sur lui-même. Il n'y a plus d'espace. On a l'impression de regarder un paysage intérieur. Plus de temps. On est immobile et aux aguets depuis l'éternité. La bête rôde, elle est là-bas, elle est ici. Elle est dans mon cœur, elle est dans le noir des marais. Elle s'approche, elle s'éloigne. On ne la voit pas, on voit son sillage. Elle ne cherche pas une proie. Que serait la chair d'un homme pour une bête de cette importance? Elle cherche un but, et on sait qu'on est le blanc de la cible. Le complexe d'Andromède ouvre 1000 boulevards de glace dans l'âme la plus pot-au-feu. L'odeur se lève, celle de la boue, nous sommes dans un delta, celle du poisson, mais si éloquente que tout le vaste ciel n'est que l'œil du poisson, qu'on imagine que ses écailles vont se frotter aux galaxies, que sa queue s'enfuit dans les lointains du monde en expansion plus vite que la lumière. Odeur de pourriture, mais suave à l'esprit, comme l'odeur du champignon est suave au goût. Une formidable odeur de naissance avant la forme, à l'heure où la vie mêlée à la mort a encore le droit de choisir ce qu'elle va devenir. Odeur de reptiles, des premières colonnes vertébrales qui ne savaient pas encore se tenir debout. Odeur de tout ce qu'il a fallu combattre depuis des milliers de siècles pour en arriver à ne plus toucher la terre que de la plante des pieds. Le mastodonte qu'on attend paraît plus savant que toutes les églises. On n'a pas peur de sa férocité, on a peur de son affection. Il ne s'est pas encore montré, et déjà, par son bruit et son suin, il vous a détruit et reconstruit en sens inverse, de briques et de brocs, et surtout cul par-dessus tête. On a peur de la contagion de sa forme. On a surtout peur de n'avoir pas de nom pour désigner cette forme, qui va être la vôtre, et d'être entraîné à mon âge, dans ma situation de famille, avec la place que j'occupe, étant ce que je suis, dans une école buissonnière de la sensibilité. Rien n'est plus émouvant que l'odeur de la boue remuée. Toujours ces roseaux balancés dans ce sillage qui maintenant s'approche. La bête va débûcher. Les roseaux s'écartent. Elle débûche. On fait face avec tout ce qu'on a pu ramasser en soi d'inhumain, et c'est beaucoup. rien n'arrive. Sinon dans les hauteurs du ciel, le passage d'un corps invisible. Il s'éloigne, en même temps qu'on a honte des armes qu'on tient à la main, et il va s'engloutir en Méditerranée. On entend dans le sud des clameurs sur la mer. Mais il est une heure où tout s'apaise. Les nuages s'allongent et rougissent dans le couchant. Ils se sont immobilisés sur les collines au-delà de Nîmes et d'Uzès. Ils dorment déjà. Ici, le ruisseau sifflote. L'ombre démesure l'inquiétude, mais le romantisme ouvre dans la peur des clairières organisées. Les fantômes s'éloignent avec le soleil. Une longue sauterelle verte prépare soigneusement le déclic de ses cuisses. On la voit penser à son bond. Elle pétrit la poussière de ses petites griffes. Elle tourne de tous les côtés sa tête de Philippe Auguste. Elle mesure de l'antenne la profondeur de l'air. Elle accumule sa face dans ses genoux. Enfin, elle saute, ouvre ses ailes rouges et va retomber à un endroit tout à fait semblable à celui qu'elle a quitté. Des essaims de mouches font voler des voiles de veuve. Des vols de moustiques épais comme des tigres aiguisent leurs griffes contre la soie de l'air. La plonge des grenouilles ajoute une dimension à la profondeur du soir. La chouette secoue ses feutres de buisson en buisson. L'engoulevent bourdonne. Quelque part, un échassier craque. C'est l'heure aussi du vrai renard, plus invisible que son fantôme. Mais il aboie, et ses démêlés domestiques donnent du volume à la nuit. Des rats fuient des dangers de rats, poursuivent des proies de rats ou rêvent des rêves de rats, faits de galop, tous en bande, ventre à terre. La dernière lueur du jour miroite au tranchant de la dernière hirondelle. La première étoile s'allume. Le brasier des villes et des villages éclaire l'horizon courbe de la steppe. On entend gronder le gros bras du Rhône. Les poissons font claquer le plat des étangs. Le cri mélancolique des hérons creuse la nuit vers Aigues Mortes. Le silence est d'une éloquence romaine. Tout ce qui vit circule et se déplace sans bruit. Même les roseaux, même les arbres rabougris. Les étoiles envahissent le delta. Il y a plus de constellations dans le Vacarès que dans le ciel. La boue et la pourriture ont une odeur de confiserie turque. L'amour et l'égorgement ayant le même cri, on croit que toute matière est en train d'aimer. Les illusions de la nuit ont un langage de nourrice. On entend hennir des chevaux, mugir des bœufs, mais on ne sait pas si ces bruits de harde viennent de la terre ou de la mer qui remue ses abîmes et frotte ses sables. Le rouge du soleil est encore en piémont, qu'ici palpite l'aube la plus large qui soit. La nuit n'a pas encore quitté les ruelles d'Arles et déjà, multipliée par les étendues d'eau et les sables, une lumière de neige installe ses reflets sur des étendues désertes. La mer elle-même est encore noire. Vers Miramas, Salon, et du côté de l'étang de Berre où la terre est aussi nue, où les plans d'eau sont plus vastes et qui sont plus proches de l'est, l'aube est encore bleue. Ici, réfléchie par les sables, elle a pris tout de suite une extraordinaire blancheur. À Avignon, les hirondelles mettent à peine le bec hors du nid. Ici, elles tournoient et grincent dans le ciel aigre. Dès le premier rayon de soleil, la plume éclate de tous les côtés. Le noir de la bergeronnette, le rouge du traquet, le jaune du pluvier, le gris du chevalier, le vert du vanneau, le rouge de la barge, le gris du courlis, le blanc de la harle, jusqu'au tas d'orne orange, jusqu'à la macreuse qui fait tourner au-dessus des marais des vols de laine bleue. Tout ce qui vole, tout ce qui trotte, tout ce qui rampe s'émeut. Pendant que le soleil gravit les Alpes dans l'est, s'installe en Camargue un rapide moment de vie. La nuit, où les meurtres s'accomplissent en un demi-sommeil, s'enfuit vers les Cévennes. Le jour africain qui enflamme le sang n'est pas encore là. La laie, suivie de ses marcassins, quitte sa bauge. On ne voit de ces animaux que la raie noire qu'ils ont sur le dos. Le reste du poil est couleur de terre. Les vols des chassiers traversent le ciel comme des graines d'érable emportées par le vent. Le lézard vert émerge des fosses. Il s'avance sur le sable de son pas de somnambule. Il court à toute vitesse, où il s'immobilise soudain, pétrifié, sans raison. C'est le guilleret ou le guillevert. D'aucuns prétendent que sa morsure est terrible. D'autres qu'il est le compagnon de Diane et qu'il prévient les chasseurs endormis en leur passant sur le ventre à l'approche de la vipère. Il est le roi de la catalepsie. Au milieu d'une course, au milieu d'un bond, il se fige, se pétrifie dans une immobilité de marbre. Son œil seul reste vivant. Quand il se bat, il ressemble à un chat. Il arrondit l'échine en s'élevant sur les pattes. Il abaisse la tête, il gronde en silence, c'est-à-dire qu'au lieu d'enfler la voix, la colère le fait menacer dans un murmure de plus en plus faible, et c'est en silence qu'il saute sur son adversaire. Il est vert, comme si la couleur verte venait à l'instant même d'être inventée pour lui. Le zoologiste dit qu'il affectionne l'attitude spectrale. La vérité est qu'il voit les dieux. Les dieux de cette terre sont des monstres. Je ne veux pas dire qu'ils sont des diplodocus, mais simplement qu'ils ne peuvent pas être compris par le raisonnement cartésien. Le Christ, Bouddha, Mahomet et tous les ophidiens des Aztèques ne sont que les viscères de ces dieux énormes. La coronelle, ou couleuvre lisse, sort de son trou. C'est le plus intelligent des serpents. Lui aussi voit Dieu de son petit œil opalin qui semble aveugle, mais il n'entre pas en transe pour si peu. C'est un Chinois. Il passe sa journée à écrire des idéogrammes sur le sable. Et voici le guerrier, le zaménis, ou couleuvre verte et jaune, appelé également fouet, ou loup cinglant, à cause de sa longue queue fine. Ce serpent mesure facilement 1 mètre à 1,30 mètre de longueur totale. Il est arrogant et plein d'initiative. Il grimpe aux arbres, il pille les nids, il est d'un caractère vif et farouche. Il mord furieusement. Seul le guillevert lui résiste, lui saute à la gorge et s'en débarrasse. Les autres, il les avale nus et crus, vivants. Il aime sentir la proie agoniser lentement et se débattre, et même griffer son gosier extensible. Sa gourmandise, c'est l'agonie des autres. Il aime non seulement se nourrir, mais en jouir. L'inerte, il n'en a que faire. Mais dès qu'il voit vivre autour de lui, il pense, car il pense, qu'il serait voluptueux de digérer cette vie. C'est un animal politique. Sa digestion est césarienne. Il a 2 pénis armés d'épines recourbées en arrière qui rendent, quand il s'accroche, la séparation difficile, souvent tragique. La femelle n'a qu'à mourir ou à tuer le mâle et à le dévorer, ce qu'elle préfère se payer 9 fois sur 10. Il faut parler longuement des serpents. Il y a les 2 grands serpents du fleuve qui enlacent cette terre. Il y a les marais, les boues, les sables, les enchevêtrements d'épaves végétales, cette atroce chaleur, cette aveuglante lumière, ces dieux invisibles. C'est le lieu géométrique du serpent. À cette heure où le soleil est encore en train de gravir péniblement le versant oriental des Alpes, tout ce qui vole, tout ce qui rampe, tout ce qui saute, profite de la lumière blanche de l'aube. C'est un moment de faste. Ils profitent de la gloire de leurs plumes, de leurs poils, de leurs écailles. Ils n'existent pas encore. Ils ne sont pour l'instant que mis en mouvement par leur essence. La couleuvre à collier ou couleuvre des dames. Tête grosse, museau court, yeux grands, pupilles rondes, iris jaunes. Un œil dont la lumière a l'air de sortir, comme si le reste du monde était l'œil et cet œil le spectacle. La femelle est une dondon, c'est elle qu'on voit le plus souvent. Elle est longue d'1 mètre en moyenne, dans certains cas elle atteint 2 mètres et plus, elle est épaisse. Elle ne rampe pas en idéogrammes déchiffrables comme la coronelle, elle se traîne. Ce n'est pas une savante, c'est une ménagère. Son mâle est svelte et plus petit. On ne croirait pas qu'ils sont de la même race. Il frétille, il est olivâtre, parfois bleu. Il est décoré de la toison d'or, un collier blanc, supportant un triangle orange. La couleuvre à collier ne mord pas, d'où son nom de couleuvre des dames. Mais elle effraie par sa grosseur, son muscle, son aspect féroce, son œil qui refuse le spectacle du monde et se considère comme le spectacle du monde. On croit savoir que c'est pourquoi elle ne mord pas. Par contre, La couleuvre des dames a coutume d'arroser copieusement de la sécrétion nauséabonde de ses glandes cloacales et de ses déjections ceux qui la saisissent. Ils sont rares. Elle est énorme et elle prend facilement une attitude féroce. Elle ingère sa proie en commençant par les parties postérieures pour lui laisser tout le temps de crier. Elle se réjouit de ses cris. Malgré sa lourdeur, c'est un bel animal dans le matin quand il ne chasse pas encore et qu'il profite de sa beauté. On le voit dans les avenues que l'eau a délaissées ou aux abords des marais, dans les premières boues. Il n'est jamais lapidé parce qu'on ne peut pas espérer le tuer à coups de pierre. On le tue au bâton ou au fusil. Le serpent, quel qu'il soit, est d'une beauté si simple et si totale que l'homme le tue par plaisir. Revenons aux oiseaux, puisqu'on parle de beauté. Ils sont des milliers, de toutes races, de toutes plumes, de toutes couleurs. Il n'est pas un îlot perdu du lointain Atlantique qui ne délègue ici son fou de Bassan, sa mouette rieuse, son goéland pygmé, son hirondelle de mer ou sa griffette noire. Le cormoran, la harle huppée, le harel de demi-clon, le plongeon, le vanneau, le bécasseau, le tournepierre, la guignette mélangent dans mille sortes de vols le rouge, le vert, le bleu, le jaune, l'orange, le noir, le blanc pur et ce gris d'iris dans lequel toutes les autres couleurs se résolvent, jusqu'au paradisier connu sous le nom de sifilet, qui porte de chaque côté de la tête trois plumes étroites extraordinairement prolongées, et sur ses flancs le beau vernis émeraude qui vient ici faire le mousquetaire et se friser la moustache. Certains sont réputés ne vivre que dans de lointaines Sibéries, ils sont là. D'autres, comme le couroucou à tête d'or ou le cotinga bleu, ont besoin des savanes et des fleuves à alligators. Et ils sont là, dans ce pays de sable nu, de joncs et de petits lézards. Il y a même le touracos, cette sorte de phénix, cet oiseau rouge qui déteint dans l'eau. Si le touracos se mouille et s'il se frotte dans le sable devient rouge et le touracos devient blanc. Mais dès qu'il sèche, il redevient rouge. Les mêmes faits ne se produisent plus sur la dépouille morte et desséchée de l'oiseau. Il y a les martinets, les cailles, les grues, les cigognes, les oies, mille variétés de canards, tous migrateurs et voyageurs, qui viennent ici muer et se renforcer la plume. Il y a ceux qui viennent des forêts, depuis la plus noire à la plus vermeille. Il y a les oiseaux des steppes, ceux des bords de l'Alena, ceux des bords de l'Amoudaria, ceux de l'Euphrate, ceux de la route de la soie, ceux des Kerguelen et des Terre-Neuve. On trouve en colonie de plusieurs centaines le pinson de Punta Arenas, et la gélinotte de Magellan tourne dans le bleu pur du ciel comme elle tourne éperdument dans les orages et les tumultes du canal de Beagle. Le courlis des glaciers voisine avec le traquet des sables. Les carouges et les troupiales de l'Amérique construisent ici leur nid en forme d'alambic, comme ils les construisent sous les tropiques pour protéger leur couvée des mammifères grimpeurs. Certains creux de dunes cachent à la fois le nid de la veuve à collier d'or qui ne contient jamais d'œufs et celui de la pénélope noire qui en déborde. Et il y a des indigènes, les gens d'ici, la piétaille qui hante les chaumes et les génoises, de Carpentras à Montpellier, de Sète à Marseille, de Vauvert à Lambesque, le coucou, le verdier, la mésange serrurier, la mésange tête noire, la bergeronnette, le pique-bœuf, le pinson, le merle, la grive, le rossignol, le chardonneret, le bouvreuil, l'alouette, le rouge-gorge, la pie, et enfin le moineau, le bon moineau gaulois, le plus paresseux des oiseaux qui vit dans la société de l'homme, pullule dans les villes et garde ici ses habitudes d'oisif et de citadin. Tous ces étrangers et ces paysans du terroir mêlent leur vol et leur cri dans le matin. Tous les gosiers avalent et rejettent harmonieusement cet air à goût de mystère et de marais. Ceux qui ont la trachée cylindrique émettent le son de la flûte, du fifre, du flageolet. Ceux qui ont la trachée en forme de cône, plus étroite vers le bas que vers le bec, ronflent comme des jeux d'orgue. Les uns sonnent des appels de cor ou de trompette ou de trombone. D'autres frappent sur des cordes de cristal ou font vibrer des tambours. Le serin, le verdier, le loriot chantent leurs amours. Les moineaux font entendre une clameur plaintive à la vue d'une pigrièche. L'épervier, la buse, font jeter aux perdrix des cris stridents. Partout, l'air retentit des sifflets, de gloussements de tendresse et d'inquiétude. La rousserolle élève une voix qui le dispute à celle du rossignol. Les passereaux entonnent leur chant particulier, chant de guerre et de terreur. La voix gutturale du bouvreuil frappe la surface lisse des étangs avec tant de force qu'elle la fait frissonner. Les oiseaux carnivores, au bec plus effilé, soupirent plus tendrement que tous. Leurs accents sont plus passionnés, plus enchanteurs. Pendant qu'ils guettent autour d'eux avec la vivacité extrême de leur œil cruel, sans intelligence. Les oiseaux criards des grands larges, organisés pour s'appeler à de grandes distances au milieu du bruit des vagues, émeuvent, de leurs lourdes ailes et de leurs clameurs, les étendues de joncs et les eaux mortes. Enfin, d'un seul coup, du sommet des Alpes, le soleil saute dans le delta. Brusquement, tout se tait, tous les vols s'abattent, tous les oiseaux se faufilent dans les buissons, se terrent sous les touffes de forbes, se glissent sous les joncs, vont se mettre à l'ancre au plus noir des marais. Un instant, la surface de toutes les eaux bouillonne, du reflet de toutes les ailes, se strie du sillage de toutes les flottes en fuite, puis redevient lisse et vide comme un miroir où seul le ciel nu se montre. Silence. Alors, avec le jour, entre en scène le serpentaire. Il arrive à pas rapide, c'est pourquoi on l'appelle le messager. Il a sa plume sur l'oreille comme les commis aux écritures. C'est pourquoi on l'appelle aussi le secrétaire. Pour accélérer sa course rapide, il ne se sert pas de ses ailes. Il se sert de sa férocité qu'il durcit comme un plomb dans sa tête qu'il lance en avant. Et c'est ainsi qu'il précipite sa course comme un héros grec. Il arpente les sables comme Achille autour de Troie. C'est un vautour marcheur destiné à vivre dans les déserts. Il vit en pleine Iliade. Il a les jambes couvertes de cuirasses. Il est gris comme un vieux guerrier, sauf ses flancs, où comme d'anciens trophées de rapine, il porte de l'émeraude, du saphir et de l'or terni. Depuis longtemps, il guettait les serpents. Il guettait le plus gros. Il attendait le soleil. Le soleil est là. Il n'attend plus, il attaque. C'est généralement une grosse couleuvre à collier, épaisse comme le bras d'un homme, qui s'arrête, se redresse, gonfle son cou et siffle à épouvanter. Dans les buissons du voisinage, tout se terre et se cache. Le serpentaire développe une de ses ailes, il la ramène devant lui en bouclier et couvre ses jambes. Le serpent s'élance. L'oiseau bondit, frappe, se jette en arrière, saute en tous sens et revient au combat en présentant toujours son bouclier de plumes. Et pendant que le serpent s'épuise à frapper et à mordre cette souquenille grise et molle, l'oiseau lui détache de son autre aile de vigoureux coups. Le reptile étourdi chancelle et cherche à fuir. Le serpentaire lui brise la tête à coups de bec et boit sa cervelle. Il danse autour du cadavre encore agité, une petite danse sacramentelle à cloche-pied, battant des ailes, hochant la tête de tremblement comme un cheval dans le pas espagnol. Enfin, il dépèce complètement sa victime. Il l'avale à gros morceaux. Repu, il ferme les yeux comme endormi, immobile, ivre de nourriture, de férocité satisfaite, de logique